On est en
Attendez, je n'ai pas
direct.
ton, ton micro là qui est.
Ouais, il est tout rouge là.
Bouge pas. Tu l'as pas sorti là?
Si, si, je l'avais sorti, je l'ai branché. C'est pour la caméra. Salut tout le monde, si vous êtes là. Je vous avais prévenu qu'on allait faire un live exceptionnel aujourd'hui. Ce live, il a lieu avec Sophie. Elle est radiologue et puis on s'est connus parce que elle fait partie d'un groupe de médecins qui m'amuse beaucoup. Ce sont des jeunes médecins et comme c'est des jeunes médecins, en fait, ils ont une fraîcheur qu'on n'a plus trop à l'heure actuelle dans la médecine. Et je trouvais que ça valait le coup que vous les connaissiez vous aussi. Donc conclusion, elle vient de sortir un bouquin. Je vous le montre. Ça s'appelle Docteureuse. C'est une bande dessinée. En fait, tu me dis que c'est une bande
En
dessinée?
fait, c'est un texte, c'est un livre qui est hybride, moitié bande dessinée, moitié texte.
Et en plus, c'est pas avec n'importe qui. Elle l'a fait avec Jules. Et Jules, c'est un vraiment, c'est un dessinateur de premier niveau. Donc, et dans ce livre, qu'est-ce que tu nous racontes?
Alors, en fait, il y a trois parties principales dans le livre. La première partie, c'est mon parcours d'étudiante de médecine. Donc, ça parle de la première année jusqu'à la fin de mon cours de l'internat. Je donne des conseils pour les révisions, que ce soit pour la première année jusqu'à la fin du concours de l'internat, comment arriver en stage, comment être à bonne externe, etc. Après, il y a une partie où je parle plus des sujets des médecins à l'hôpital, c'est-à-dire comment ça se passe, par exemple, à une garde, justement, comment c'est l'ambiance carabine, les fresques, l'ambiance de la fac, les soirées médecine. Je parle aussi du fait d'être une femme médecin, parce que c'est vrai
Tu
que,
trouves que ça fait beaucoup?
en fait, je trouve qu'être une femme médecin, à la base, c'était les médecins, c'était des hommes, et c'est vrai que les femmes sont arrivées petit à petit dans le monde de la médecine.
Il n'y en a pas plus maintenant que des
Il
hommes?
y en a de plus en plus, ouais, il y en a peut-être un peu plus maintenant, mais tu vois, ça, enfin, moi j'ai déjà entendu des gens dire, ouais, depuis que les femmes sont médecins, la médecine c'est plus ce que c'était, tu vois. Donc,
Vraiment?
ouais. Et moi, par exemple, en stage, quand j'étais externe, on me disait, ah, on pensait que j'étais infirmière, alors que j'ai mon co-externe qui avait le même âge, on
Mais
pensait qu'il
ça,
était
c'est,
docteur.
je sais pas, c'est un truc vieux, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, je trouve que ça se fait plus, ça. Les femmes médecins, à la limite, j'aurais presque plus confiance parce que je trouve que de temps en temps, les hommes médecins, ils sont un peu agressifs.
Ah ouais.
Et alors, ce qui m'a fait rigoler dans ton livre, c'est que tu racontes que tu avais trois grands-parents médecins
Ouais.
et aucun parent médecin.
Ouais. On a sauté une génération de médecins.
D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que, est-ce que tu as toujours autant de joie à être médecin?
Ouais, honnêtement, j'adore mon métier. Je me lasse jamais. C'est-à-dire que les journées, elles passent. Et en fait, c'est comme si j'étais dans une sorte de microcosme, enfin dans une petite bulle. Je suis concentrée sur mon travail et j'adore ce que je fais. Je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que c'est hyper gratifiant de prendre soin des patients, d'aider les gens. Et tu vois, quand je... Ouais, je trouve ça cool.
Est-ce que tu ne trouves pas que c'est assez cynique? J'ai une fille qui est médecin aussi, qui fait la même spécialité que Sophie. Sophie, elle est radiologue. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est assez cynique quand j'entends par exemple ma fille me dire waouh, c'est trop génial, j'ai fait un diagnostic de ouf et elle me sort un truc épouvantable, quoi. Est-ce
Oui,
que tu
mais...
fais ça toi aussi?
Oui, en fait, je suis contente quand je trouve quelque chose parce qu'en fait, je me dis, grâce à ce que j'ai vu, le patient va être pris en charge et de cette prise en charge, je vais découler un traitement. Donc, en quelque sorte, tu as une sorte de satisfaction de se dire, bah, j'ai sauvé quelqu'un grâce à cette image que j'ai vue. Il va être mieux.
On ne sait pas ce qui s'est passé, on a entendu
C'est la
un bruit
tempête.
brutal dans la maison. Je pense que c'est la porte qui s'est ouverte. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'attentat prévu aujourd'hui. Combien de temps t'as mis à écrire ce bouquin?
En fait, l'idée, ça m'était venue à la fin de ma dernière année d'internat. J'avais cette idée, j'étais en mode, il faut que j'écrive. Et du coup, j'avais fait une note où j'avais dit écrire un livre et j'avais mis les idées. Et en fait,
Tu
Julien...
vois, ça, je trouve ça très fille. C'est-à-dire la fille super organisée, elle dit écrire une note. Il faut que j'écrive un livre, tu vois. Ça, c'est le genre de truc, c'est impossible pour moi de faire un truc comme ça.
Ah ouais, bah t'as écrit plein de livres quand
Oui,
même.
mais jamais j'écrirai écrire un livre, tu vois. Moi, c'est brouillon, c'est désorganisé. Et je trouve que les femmes en médecine, c'est très structuré.
Ah, c'est possible, je ne me rends pas compte, mais pour moi, en fait, c'était juste que j'avais plein d'idées sur plein de choses et je m'étais dit, bon, faire un livre, ce serait génial. Et j'avais du coup écrit chaque thématique que je voulais aborder, donc les gardes, des conseils pour réviser, l'ambiance carabine, etc., pour transmettre, en fait, sur un autre réseau que Instagram, tout ce que j'avais vécu. Parce que, en fait, aussi, il y a plein d'abonnés qui me posent des questions sur comment j'ai vécu ça, comment j'ai vécu ça. Et là, je me suis dit, dans un livre, je synthétise tout, tu vois. Donc, c'est vrai
D'accord.
que.
Comment tu trouves que les gens se comportent aujourd'hui avec les médecins? Moi, j'ai connu une période, ben ça, je fais vieux con là, mais j'ai connu une période où le médecin, c'était réellement un notable, quelqu'un d'extrêmement
Ah, je suis
respecté,
d'accord.
écouté, etc. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça.
C'est vrai, je suis un peu d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec toi, dans le sens où il y a beaucoup plus de méfiance des médecins envers les médecins de la part des patients. Je pense que c'est lié surtout au fait que il y a eu, avec l'arrivée d'Internet, une arrivée massive d'informations, que les gens peuvent aller se sourcer un peu n'importe où. Et donc, ils ont des croyances liées à des fausses informations qui circulent sur Internet.
Est-ce que tu prescris beaucoup de médicaments?
Non, pas du tout, jamais, pratiquement.
Pourquoi?
Parce que je suis radiologue et que je regarde les images. Mais je
Parce que moi, je suis en train d'écrire un nouveau livre et je me suis rendu compte sur les compléments alimentaires. Et je me suis rendu compte, en questionnant les gens, que les gens ont une extrême méfiance maintenant à l'égard des médicaments.
Ah ouais, c'est possible ça.
Tu t'en rends pas compte?
Dans mes amis, peut-être que Non, j'en ai ni qui abusent, ni qui prescrivent beaucoup.
Est-ce que la vie de médecin, c'est compatible avec la vie sociale, avec la vie amoureuse, avec la vie amicale?
Alors moi, je le crois. Tout est une question d'organisation et aussi de spécialité qu'on choisit. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi radiologie parce que je savais que je pouvais avoir une vie sociale à côté. Je n'ai pas choisi une vie où je suis en réanimation ou en anesthésie et où tu bosses non-stop, tu vois.
Est-ce que tu penses qu'il y a des spécialités en médecine qui sont plus nobles que d'autres?
Non. Pour moi, en fait, être médecin, c'est vraiment quelque chose qui est noble en soi. Et après, chaque spécialité est complémentaire et on travaille tous dans cette grosse boîte qui est l'hôpital. Et en fait, sans l'un ou l'autre, en fait, des spécialités, le patient, il ne pourra pas être bien pris en charge. Donc, pour moi, chaque spécialité est essentielle.
Et qu'est-ce que tu penses de la notion d'humanisme avec la médecine? Moi, j'ai le sentiment qu'on a un peu déshumanisé la médecine. Ça veut dire qu'avant, il y avait une forme d'empathie très, très forte pour des médecins à l'égard de leurs patients. Et j'ai l'impression qu'on trouve maintenant de plus en plus de techniciens de la médecine. Ça veut dire des gens qui font un diagnostic, qui donnent un traitement, mais qui n'ont pas cette relation que moi j'ai connue. Enfin, je parle pas, je dis pas que je suis vieux, mais c'était une période où on faisait médecine par amour des autres.
Alors, moi, honnêtement, j'aime les gens et j'aime les autres, et je pense que je suis profondément humaniste. Ensuite, je pense que le fait qu'on voit moins les patients et qu'on passe moins de temps avec les patients est lié au fait qu'on a moins le temps aussi et qu'on a plus de patients à voir, vu qu'on est moins de médecins, et donc on a moins de temps pour les voir.
Radiologue, tu fais un diagnostic violent. Ouais. Typique, par exemple, monsieur, madame, vous avez un cancer du poumon, un cancer du pancréas, etc. Tu passes du temps avec les gens derrière?
Ouais, bah en fait, ça dépend quand je suis à l'hôpital. J'avoue que non, quand je suis à l'hôpital, non. Parce que du coup, je sais que le patient, il est envoyé par quelqu'un directement et que juste après avoir fait son scanner, il va être envoyé dans le service et donc que c'est la personne qui me l'a envoyé qui va lui donner son diagnostic. En revanche, quand je fais des remplacements dans des cabinets privés et que du coup, j'ai un patient qui attend en salle d'attente, je prends le temps, parfois 15, 20 minutes, une demi-heure et j'échange avec les patients et ça se passe très bien. Et je trouve que c'est satisfaisant en fait d'annoncer les choses, d'expliquer les choses aux patients.
Non, mais annoncer et expliquer, c'est aussi essayer de les apaiser
de la peur
qu'il va y avoir.
C'est vrai.
Je t'ai empêché de parler de la troisième partie du bouquin. C'était quoi la troisième partie du bouquin?
Alors, la troisième partie du bouquin, c'est être médecin aujourd'hui. Donc, en fait, c'est les défis de notre génération, donc l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'en radiologie, tout le monde nous dit qu'on va être remplacé par une IA et que notre métier va disparaître. Donc, mon idée derrière ce chapitre, c'était de lutter contre cette idée préreçue. Parce que non, on ne va pas mourir avec l'intelligence artificielle, les radiologues, je ne pense pas. Ni les autres médecins, d'ailleurs.
Je sais pas.
Et sinon aussi, c'était de parler de la présence des médecins sur les réseaux sociaux parce que c'est un phénomène qui est totalement nouveau. Ça date d'il y a moins de 10 ans. Et en fait, maintenant, il y en a de plus en plus des professionnels de santé sur les réseaux sociaux. Donc, c'était parler de ce phénomène, comment ça change le rapport avec les patients parce que du coup, on interagit, on informe directement, on est plus proche des patients. Alors, tu vois, tu parlais de l'empathie tout à l'heure où les médecins, tu as l'impression qu'ils sont plus distants avec les patients parce qu'ils ont moins de temps en consultation. Mais finalement, les réseaux sociaux, même si il y a une barrière virtuelle, ça crée une sorte de proximité avec les gens parce que les gens peuvent s'identifier un peu plus à nous.
Oui, mais enfin, à l'inverse, les réseaux sociaux, ça pose un problème. Dans la mesure où il y a beaucoup de moi, mon métier, c'est la nutrition.
Ouais.
Et je suis affolé, la nutrition, c'est peut-être pire que le reste.
Ouais.
Je suis affolé par la masse d'informations bidons que j'entends en permanence, des trucs délirants.
Oui. Mais toi, tu es une source. Toi, Jean-Michel, en tant que toi-même, tu es une source de diffusion qui est fiable. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais ça n'empêche pas. Il y a les gens qui me suivent, mais ça n'empêche pas que n'importe qui peut dire n'importe quelle connerie et il n'est pas sanctionné.
Ouais, mais parce que les gens qui disent des conneries, ce n'est pas des professionnels de santé.
Non, mais n'importe qui aujourd'hui. J'ai vu, par exemple, sur le web récemment, un gars qui a mis Doc machin.
Il n'est pas docteur.
Il n'est pas docteur et il a mis une blouse blanche. C'est-à-dire qu'il a créé toutes les incarnations de la médecine, mais il n'est pas médecin. Et il raconte que des débilités. Comment font les gens? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire?
Bah écoute, de toute façon, lui, tu sais qu'il n'a aucune crédibilité et qu'il ne fera jamais rien.
Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peur de ça.
Ouais, ça par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des usurpations de professionnels. Enfin, ouais. Ça peut être un autre problème.
Je parle de tes copains. En fait, on s'est connus. Ils sont venus me voir parce que ben, j'ai une forte réputation sur les réseaux. Mais elle est associée dans son équipe avec deux autres médecins.
Ouais, un ophtalmo et un médecin urgentiste. Et on a un podcast qui s'appelle Docs en blouse. Et en fait, Jean-Michel a été enfin, notre premier invité sur cette chaîne de podcast. Et d'ailleurs, on a cartonné avec des vidéos. Donc franchement,
J'espère plus qu'avec les autres.
ah ben, oui, mais on a fait des millions. Il y en a une, t'as pas vu? On
Non,
a
j'ai
fait des
même pas
millions
vu.
de vues.
Non, j'ai même pas
Et
vu.
on a genre 15 000 likes. T'as pas vu?
Non, j'ai
Bah,
pas
je
vu
vais te
celle-là.
montrer, je te
Ouais.
montrerai.
Ton avenir, tu le vois comment? Hospitalière, libérale?
Alors, mon avenir, je le vois mixte pour l'instant. C'est-à-dire que là, je vais finir mon poste de chef de clinique dans 1 an. Ensuite, je vais faire une activité praticien hospitalier à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps en libéral. Parce qu'en fait, à l'hôpital, je trouve que tu as une richesse des diagnostics, tu as une ambiance et tu as une émulation intellectuelle
Ça,
que
c'est
tu
les
n'as pas
jeunes
dans le.
médecins qui disent ça.
Ouais. Mais peut-être qu'un jour,
Et
je n'en
après,
ferai
les années
pas.
après, ils changent.
Peut-être, hein, j'en sais rien.
Ouais.
Pour l'instant, je suis peut-être jeune et naïve. Mais voilà, après le privé, je trouve ça cool aussi. C'est d'autres conditions de travail qui sont très agréables. Je trouve que c'est hyper agréable de bosser dans le privé. Enfin,
Alors
je suis peut-être
tiens,
privilégiée.
raconte-moi comment on mange quand on est chef ou interne à l'hôpital?
Alors, quand on est interne, à l'hôpital, on mange le self avec ses collègues. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait mon internat à Tours et Orléans. Et à chaque fois, le midi, c'était un peu le rituel. On s'attendait tous pour aller manger. Donc, on mange au self ou à la cantine de l'hôpital. C'est pas très copieux, enfin, c'est pas très bon, bah, pour être honnête. C'est en général du surgelé, c'est souvent les mêmes plats qui
Tu
reviennent.
manges à l'heure?
Non.
Ça n'existe pas, ça.
Non, ça n'existe pas.
Donc c'est surgelé, tu manges pas à l'heure, tu
Ouais.
manges à toute allure.
Tu manges à toute allure.
Et puis
Et
avec croissant toujours le matin.
non, moi, je prends pas de petit déjeuner. Moi,
D'accord.
je sais le petit déjeuner. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des gardes où, genre, je me souviens, j'ouvrais le frigo, il n'y avait presque plus rien à manger et tous les petits trucs qui restaient, c'était les trucs les plus dégueux, tu vois. Donc, t'es un peu dégoûté, je
Et le
trouvais ça.
soir, la nuit, quand tu es de garde?
Ouais, bah, en fait, du coup, ce que j'ai fait pour éviter ce genre de problème où le frigo t'arrive, il est vide, je commandais. Tu vois, les gardes, pour moi, le petit kiff de la garde, c'est de se commander des petits sushis ou un bon pad thaï, quelque chose de bien réconfortant. Bah attends, tu fais un truc qui est quand même pas. T'as tous tes potes qui sont tranquilles chez eux à regarder la télé et toi, t'es en train de bosser le soir, la nuit,
Oui, mais
t'es
c'est ta
réveillé.
passion.
Ouais, mais la nuit, je trouve ça dur. Les conditions de travail, la nuit, je trouve que quand t'es fatigué, que t'as fait déjà. Nous, les radiologues, on commence le matin à 8 h. Quand t'es là depuis 8 h du mat et que t'as enchaîné, je sais pas combien de scanners, il y a un moment où t'as plus les yeux en face des trous, t'as qu'une envie, c'est d'aller reposer tes yeux, tu vois.
T'as peur de te tromper?
Ouais, ça, je trouve que c'est hyper dur en radiologie parce qu'en fait, comme c'est des images qui sont dans un ordinateur, dans un logiciel, et ce que tu as écrit, ça reste dans l'ordinateur. Donc en fait, quand tu te trompes, c'est vraiment que c'est inscrit dans la roche, tu vois.
T'es à Cochin en ce moment.
Ouais, je suis à Cochin.
J'ai quelques copains là-bas. Quand tu as des obèses, tu les mets où? Tu les mets sur les tables de radiologie où il y a maintenant des scanners spéciaux ou...
Il y a des scanners spéciaux. Il y a des scanners qui sont spéciaux, ouais. Mais les images sont moins bonnes parce que du coup, tu as une moins bonne
Parce que
vue.
j'ai connu l'époque où on les envoyait, les obèses,
Dans des
mais
trucs vétérinaires, ouais.
ouais, on les envoyait à l'école vétérinaire. C'était les seuls qui avaient des scanners. C'était horrible. Et on en a tellement parlé dans les médias. Enfin, moi, j'en ai parlé dans les médias. Qu'à la fin, finalement, le ministère a réagi et que c'est le ministère qui a dit, mais enfin, c'est insensé, faut pas faire ce genre de choses, quoi. Tu vois, regarde, pendant l'intérêt des réseaux sociaux, c'est ce qu'on est en train de dire. On n'a pas décidé de répondre à vos questions ce soir. On répondra plus tard en message privé, soit sur l'Instagram de Sophie, soit sur mon Instagram. On voulait vous faire cette interview en direct ensemble, mais on pourra répondre par la suite avec vous. Psychologiquement, tu tiens le coup?
Alors, il y a eu une période pendant mon internat qui a été très difficile, c'est la crise du Covid. Parce qu'en fait, j'étais tellement angoissée par l'actualité et parce qu'on ne savait pas quel était ce virus et que moi, je croyais que c'était vraiment un virus, enfin, un virus mortel. Mais je l'ai eu et finalement, je m'en suis sortie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même une sorte de peur et une sorte d'aseptisation de tous les lieux de vie. En fait, tu vois, l'internat à l'hôpital, ben, on n'y allait plus. Enfin, tous les rapports sociaux, tout était devenu aseptique. Alors déjà que l'hôpital, c'est un milieu qui est froid, là, c'était encore plus aseptique. On était derrière nos masques, on communiquait le moins possible. Et c'est vrai que c'était hyper angoissant parce que moi, je me nourrissais à fond de l'actualité pour pouvoir le relayer sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a des soirées où je me faisais des insomnies de dingue. Enfin, vraiment, je partais dans des délires de ouf.
Alors moi, le meilleur souvenir que je garde du Covid, c'est qu'à un moment donné, j'allais à l'hôpital pour les aider dans les protocoles de réanimation parentérale parce que les gens perdaient beaucoup de poids. Il fallait trouver une solution pour les réalimenter. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui, pour rire, m'a dit « Va voir dans la pièce d'à côté ». Et j'ai ouvert la pièce et c'était une pièce où il y avait, mais c'était une épicerie. Ça veut dire que c'était une épicerie, boulangerie, restaurant. Il y avait des gens qui nous livraient 60 boîtes de 60 cassolettes de un restaurateur qui avait envoyé 60 casseroles de cassoulet. Donc ça sentait le cassoulet partout. Et on avait des centaines de gâteaux derrière, et c'était vachement gentil.
C'était pas Top Chef là où t'es.
Non, non, c'était pas Top Chef, c'était à Pompidou. Et en fait, les gens étaient très gentils, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire plaisir aux soignants. Et donc, comme ils voulaient faire plaisir aux soignants, ils envoyaient de la nourriture.
C'est vrai qu'il y a une solidarité dedans.
Il y a eu,
mais après, ça a vite reparti. Tu sais que moi, il y avait un abonné qui m'avait envoyé pendant une garde un énorme plateau de sushis que j'avais partagé avec les manifs. Et j'étais hyper touchée. Parce que voilà, on se
connaissait pas. Et autre anecdote rigolote, un des premiers jours où je suis rentré à la maison, il devait être 8h moins 1. Et au moment où je garde la voiture, il n'y a pas de voiture dans la rue, il n'y a que la mienne. Au moment où je garde la voiture dans la rue, il y a tous les gens qui sont au balcon, là, en face de chez moi, et ils applaudissent en levant le pouce comme ça. Moi, je ne comprends pas, ils sont malades. Et je monte, et c'est ma femme qui m'explique et qui me dit non, les gens, ils ont décidé d'applaudir les soignants. Et je vous jure qu'après, je l'avoue aujourd'hui, j'essayais d'arriver à 8h moins 1, hein, tant que ça a duré. Donc ça, c'était mignon.
C'est mignon.
Non, mais on connaît des périodes de crise comme ça.
Oui. Et puis, je trouve qu'il y a eu des périodes qui étaient plus difficiles pour moi, c'est-à-dire la première année de l'internat, la première année de médecine, déjà, c'était super dur parce que moi, je me suis enterrée dans une grotte et je faisais que de bosser. Et je trouve que la pression en première année de médecine, elle est intense. Enfin, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu.
Moi, je l'ai vécu à la cool parce que j'avais tellement bien réussi le premier semestre que le second semestre.
Ah ouais, t'étais détente.
Détente, je savais que j'étais reçue même si j'avais des mauvaises notes.
Ah, la chance. Bah, non, ouais, moi, je n'étais pas comme ça. Comme j'étais à la limite du classement, en fait, pour être prise. Ouais. Le deuxième semestre, j'avais carburé parce qu'il me manquait genre 10 places pour être dans le numerus clausus.
Tu conseillerais aujourd'hui à un jeune de faire médecine ?
Alors, c'est une très bonne question. Je conseillerais à un jeune, oui, en fonction de ce qu'il est prêt à vivre. Et je le mettrais en garde sur le stress, le risque de burn-out, la santé mentale. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la santé mentale des étudiants de médecine qui n'est pas très bonne par rapport à d'autres étudiants. Ils ont quand même un taux de dépression qui est plus élevé, de burn-out, de suicide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens à l'hôpital fassent un travail là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut être bienveillant avec les externes, bienveillant avec les étudiants de médecine, créer une situation où les gens, en fait, ne sont pas dans le… En fait, en médecine, je trouve aussi qu'on est très dans le « tu t'es trompé, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça », au lieu d'avoir une démarche de « bon, ok, t'as fait ça comme ça, pourquoi t'as pensé faire ça comme ça ? Ben non, il faut faire ça comme ça ». Tu vois, de moins pointer du doigt les erreurs des autres.
J'ai discuté avec un businessman il y a 2 soirs qui nous a invités à dîner avec mon épouse.
Ouais.
Et il me parlait de ses affaires de business et il m'a dit « Oh là là, on a fait des affaires avec des médecins, ils ne comprennent rien. » Et je lui ai dit « Un médecin, ce n'est pas fait pour faire des affaires.
Ouais.
Un médecin, c'est pour faire de la médecine. Ne cherche pas à leur demander à comprendre ce que toi, tu fais par cœur. Un médecin, il fait la médecine. »
C'est clair.
Et si, à mon avis, si tu n'as pas la vocation, si tu n'as pas envie de soigner les gens, envie d'aider les gens, ne fais pas ce métier.
Ouais, c'est
surtout pas, tu vas être malheureux. Parce qu'il y en a plein qui ont fait ce métier juste pour gagner de l'argent. Eh ben, ils se plantent, ils ne sont pas heureux dans leur vie.
Non, je pense que tu n'es pas heureux parce qu'au final, c'est vrai qu'à l'hôpital, pendant de nombreuses années, tu ne gagnes pas beaucoup. Et forcément,
mais
tu t'en fous. En fait,
c'est un kiff.
C'est un kiff, voilà, je te dis, les gens qui s'en foutent, ce n'est pas important. Mais je pense qu'il faut quand même revaloriser le salaire des étudiants de médecine et des soignants globalement à l'hôpital.
Non, mais on peut vous donner le salaire d'un externe ou d'un interne. Vous allez rigoler, il y a plein de gens qui se plaignent, mais là, c'est à mourir de rire.
Moi, 300 balles, entre 100 et 300 balles par mois en fonction du…
Voilà, entre 100 et 300 euros par mois pour un externe, pour un travail qui consiste à venir faire le travail de 9h à 13h minimum, puis ensuite de se taper les gardes la nuit qui ne sont pas revalorisés. Et ça, ça vaut 100 € par mois. Et on vous dit merci beaucoup. Alors, je sais qu'on apprend pendant ce temps-là, mais quand même, comment on fait pour vivre si on est externe et qu'on n'est pas d'une famille riche?
Ouais.
Comment on fait?
Moi, je connaissais un mec… quand j'étais interne, qui voulait le PQ de l'hôpital.
Oui.
Tu vois, et en fait, il m'a dit, ouais, c'est parce que j'ai pas le temps. Mais en vrai, je savais pas si c'était parce qu'il avait pas le temps ou si c'est parce qu'il avait pas de thunes, parce que le PQ de l'hôpital, il est horrible. Donc, j'étais vraiment, il aime souffrir.
Ton prochain projet, ça sera quoi? Tu vas continuer à écrire? Est-ce que tu as pris le virus?
J'ai adoré écrire ce livre et j'ai trouvé ça super. Mais pour l'instant, j'ai pas d'inspiration pour un prochain projet. Donc, j'attends de mûrir. Tu sais, ça, avant de l'écrire, j'avais mûri le projet pendant un an. Donc, ça faisait un an que je ressassais, j'étais en mode, faudrait que je le fasse, machin. Et j'ai attendu de finir mon internat à Tours, d'arriver à Paris. Je croise Jules un soir par hasard et je le regarde et je fais, ça te dirait qu'on fasse un livre ensemble? Il me dit, ouais, je prends un verre chez lui le lundi d'après, on fait un brainstorming de dingue. Et une semaine après, on a signé dans la maison d'édition et c'était parti. Mais voilà, je crois.
Le livre est agréable, il est agréable à prendre en main. Vous savez, moi, je suis un professionnel du livre. Donc, Et il est agréable à prendre en main, il est agréable à regarder. Au niveau de sa compte, hein, dans un livre, ce n'est pas que le contenu d'un livre, c'est aussi la maquette du livre qui est importante. Il est agréable à regarder. Les dessins sont très drôles. J'ai vu des passages, voilà. Là, elle lui dit, et si on inventait de nouvelles épreuves de mise du stage pour le week-end d'intégration? Yes, on pourrait les faire, dit Félia, à poil dans le métro, carrément, et leur faire manger des boulettes de PQ. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, c'est interdit.
Bah ouais. Le bizutage, c'est fini.
Voilà. Et il y a un truc qui est très drôle, je vous le partage. C'est tellement vrai, ça. La nuit de garde d'un externe, c'est n'importe où. On vous fait dormir n'importe où. Et la nuit de garde d'un interne, bon, il a quand même la chance d'avoir un lit dans une salle de garde, dans une mini-chambre, dans une cage. C'est-à-dire, ce n'est pas une salle, mais c'est une cage. Est-ce que dans les spécialités que tu aurais pu faire, c'est quoi?
Alors moi, j'avais beaucoup hésité avec la dermatologie parce que j'aimais beaucoup en fait l'aspect visuel des maladies. Je me suis rendu compte que, tu vois, quand on me disait « est-ce que tu sens la masse ?» quand j'étais externe, tu sais, on te fait palper des masses dans le ventre et tout, j'avais toujours du mal à trouver. Alors que tout ce qui était visuel, ouais, tout ce qui était visuel et la dermatologie comme la radiologie, c'est une spécialité qui est hyper fine. C'est-à-dire que tu es dans le détail. Tu décris les collerettes desquamatives, tu décris le type de lésion. Et ça, c'est ce que j'aimais, c'est la précision du diagnostic dans la dermatologie. Donc, j'ai beaucoup hésité. Et en fait, à la fin de mon externat, quand j'étais en D4, j'ai eu une patiente qui avait un ulcère de jambe qui hurlait de douleur. Et en fait, ça sentait tellement mauvais, l'ulcère et tout, que je me suis dit, en fait, c'est un signe qu'il faut que je fasse pas dermatologie.
L'hygiène, qu'est-ce que tu en penses, l'hygiène des patients?
À l'hôpital, elle est pas terrible, mais... Franchement, il y a des patients où tu te dis qu'ils sont dans des états pas très propres. Quoi.
Est-ce que tu penses que toutes les couches sociales sont représentées à l'hôpital?
Ça dépend des hôpitaux. Je pense que ça dépend des endroits. Ça dépend des villes.
Je te parle de l'hôpital public. Hein. Ouais. Je ne parle pas de l'hôpital américain, pseudo-chiffre.
Ok, je pense, non? T'en penses quoi, toi?
Ouais, je pense que quand même à l'hôpital, maintenant, c'est toutes les couches sociales, ouais. Mais qu'avant, ce n'était pas toutes les couches sociales. Les gens qui avaient du blé, ils allaient toujours dans le privé ou dans les cliniques. Et maintenant, comme il y a très peu de médecins et comme il y a très peu d'accueil d'urgence, maintenant, tout le monde va à l'hôpital. Est-ce que tu penses qu'il y a une médecine à deux ou trois vitesses?
Oui, je suis d'accord qu'il y a une médecine à deux, trois, voire même quatre vitesses. Mais après, malheureusement, ça dépend de qui tu connais. En fait, avant, c'était, c'est vraiment, est-ce que tu as des potes qui sont en médecine qui peuvent t'orienter vers quelqu'un? Parce que il y a tellement de manque de médecins, surtout en Provence, tu vois. Enfin, moi, j'ai la mère d'un copain en Provence qui ne pouvait pas se faire soigner là-bas. J'ai pris rendez-vous à Cochin, je me suis occupée de son dossier, mais si je n'étais pas là, il n'aurait pas su où aller et à qui être adressé. Donc, c'est beaucoup pour maintenant des relations, en fait.
Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une évolution de la société ou si ça s'est fait comme ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une forte responsabilité du fait d'avoir stoppé le numerus clausus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de médecins en France, que la santé coûte cher, qu'on a appris aux gens aussi que tout devait être gratos. Et ça, je trouve que ce n'est pas bien.
Non, ce n'est pas bien.
Parce qu'il y a ceux qui abusent le plus, ce n'est pas ceux qui en ont besoin le plus. C'est ça qui m'énerve.
Ouais, et surtout qu'il y en a qui posent des lapins, ils s'en scrupulent, ils s'en fichent parce que de toute façon, ils ne payent pas. Donc, moi, je trouve qu'imposer une taxe aux lapins, peut-être que ça rendra responsable les gens, tu vois. Moi, c'est juste. Je veux un minimum de respect. Moi, ça me saoule quand je vais bosser le matin. Je me lève à 7h du mat, j'arrive à 8h au scanner, le premier patient a planté. Et j'attends 20 minutes à rien faire. J'aurais pu dormir 20 minutes de plus. Mon sommeil est aussi précieux que les autres. Donc, je trouve que c'est irrespectueux quand les patients, ils mettent des lapins. Et ils font pas ça pour les restaurants, ils font pas ça pour les coiffeurs. Donc, ils respectent les médecins aussi, tu vois.
Ouais, c'est exactement ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite interview. Alors, le livre s'appelle « Docteur Re ». Alors, je ne sais pas pourquoi tu as mis docteur Re. C'est dégueu d'écrire doctoresse?
Alors non, c'est vrai que la doctoresse aussi, j'ai une copine d'ailleurs en Suisse qui me disait qu'il disait beaucoup doctoresse en Suisse. Mais je trouve que doctoresse, en phonétique, j'aime pas trop.
Oui, c'est vrai, c'est dégueu.
Je préfère docteur.
Alors moi, je dis docteur Re. C'est paru aux éditions L'Iconoclaste. Le bouquin, ce n'est pas vraiment une bande dessinée. Je pense qu'on éditrice m'a dit que c'est une BD. Ce n'est pas une BD. C'est un livre avec une animation dessinée. En fait, c'est très agréable à lire. C'est intéressant, instructif. Donc, vous pouvez vous l'offrir éventuellement. Vous devez le trouver sûrement sur Amazon aussi.
Oui, sur le site de la FNAC, en librairie. Voilà, il sort le 2 mai.
Il va sortir le 2 mai. Je pense qu'à mon avis, tu seras invité à droite à gauche pour en parler. Moi, je suis content qu'on l'ait fait. Sophie, je te souhaite une belle carrière, mais je sais. Merci. Qu'on va se revoir.
Évidemment. Merci,
et vous toutes et vous tous, je sais que vous avez suivi, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions à nous poser, vous les posez à Sophie ou à moi sur, en message privé, sur Instagram ou sur les réseaux, et je vous assure qu'on vous répondra. Je te souhaite une très belle carrière parce que toi et tes copains vous méritez.
Merci Jean-Michel.
Salut Sophie.
Salut.